Deuxième partie. Contes et récits. Chapitre 1. Le pavillon. 1. S'il y eut bien une chose qui surprit Eddie lors du voyage vers Calabrin Sturgis, c'est le naturel et la facilité avec lequel il se mit au cheval. À la différence de Susanna et de Jake, qui avaient tous les deux pratiqué l'équitation en colonie de vacances, Eddie n'avait même jamais caressé un cheval. Lorsque le matin suivant ce qu'il appela le vaadage numéro 2, ils avaient entendu le martèlement sourd des sabots, il avait senti son cœur se serrer de terreur. Ce n'était pas le fait de monter qui lui faisait peur, ni l'animal lui-même. C'était la possibilité, ou plutôt la probabilité, d'avoir l'air parfaitement ridicule. Quel genre de pistolero pouvait se vanter de n'être jamais monté dans selle? Pourtant, Eddie trouva même le moyen de glisser un mot à Roland avant leur arrivée. Ça n'était pas pareil la nuit dernière. Roland haussa les sourcils. La nuit dernière, ça n'était pas 19.
Que veux-tu dire?
Je ne sais pas ce que je veux dire.
Moi non plus, je ne sais pas, fit Jake. Mais il a raison. La nuit dernière, New York ressemblait au vrai New York. On se serait cru dans le réel, je veux dire. Je sais qu'on était vaadash, mais il n'empêche.
C'était réel, répéta Roland d'un air pensif.
Aussi réel que le sont les roses, fit Jake en souriant.
2. C'étaient les Sightman qui menaient l'expédition de la Cala cette fois-ci. Et ils tenaient chacun une paire de chevaux au bout d'une longe. Les montures de Calabrin Sturgis n'avaient rien de franchement intimidant en soi, et elles n'avaient certes rien à voir avec les fiers destriers qu'Eddie avait imaginés galopant au bord de l'Aplomb, d'après les histoires du méchis d'antan que leur avait raconté Roland. Il vit arriver des créatures courtaudes, aux jambes musclées, aux poils hirsutes et aux grands yeux intelligents. Plus grand que des poneys Shetland, il restait très différent des fougueux étalons auxquels Eddie s'était attendu. Non seulement ceux-là étaient scellés, mais en plus, un tapis de couchage digne de ce nom avait été roulé sur chaque selle. En se dirigeant vers son cheval, il n'avait pas eu besoin qu'on lui indique lequel était le sien, c'était le Rouen. Eddie vit tous ses doutes et toutes ses craintes s'envoler. Il se contenta de se tourner vers Ben Slightman le jeune, et après avoir examiné les étriers, de lui poser une simple et unique question.
Ils vont être un peu courts pour moi, Ben. Vous pouvez me montrer comment les rallonger ?
Lorsque le garçon fit mine de descendre pour le faire lui-même, Eddie secoua la tête. « Ça serait mieux si je pouvais apprendre à le faire, » dit-il sans aucune trace d'embarras. Ben lui indiqua donc la marche à suivre, et Eddie se rendit compte qu'il n'avait pas vraiment besoin d'un cours. Aussitôt que Ben posa la main sur le passant de l'étrier, il comprit comment marchait le système. Ça n'était pas comme un savoir inconscient et camouflé. Et pourtant, ça ne lui parut pas surnaturel non plus. C'était juste que, face au cheval réel et bien vivant, il comprenait comment les choses étaient faites. Depuis son arrivée dans l'entre-deux-mondes, il n'avait eu qu'une seule expérience de ce type, la première fois qu'il avait fixé l'un des pistolets de Roland autour de sa taille.
« Besoin d'aide, trésor ?» demanda Susanna.
« Rattrape-moi juste si je bascule de l'autre côté, » grogna-t-il. Ce qui, bien sûr, n'arriva pas. Le cheval se tint bien droit et oscilla à peine lorsqu'Eddie mit le pied à l'étrier et se hissa sur la selle noire sans fioriture.
Jake demanda à Benny s'il avait un poncho. Le fils du contremaître jeta un œil dubitatif en direction du ciel nuageux.
« Je crois pas qu'il va pleuvoir. Ça peut durer comme ça pendant des jours au moment de la moisson. C'est pour Otte que j'en cherche un. »
D'un ton parfaitement calme et parfaitement assuré. « Il ressent exactement la même chose que moi, » constata Eddie, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Le garçon attrapa un poncho roulé dans une des sacoches de sa selle et le tendit à Jake, lequel le remercia, enfila le vêtement, puis logea Otte dans la grande poche ventrale qui rappelait celle d'un kangourou. Le bafouilleux ne mit pas une protestation.
Si j'avais dit à Jake que je croyais qu'Otte allait nous suivre en trottinant comme un chien de berger, m'aurait-il répondu « Je le transporte toujours comme ça à cheval ?» se demanda Eddie.
Non, mais c'est ce qu'il aurait pensé. Ils se mirent en route, et Eddie comprit ce que tout cela lui rappelait, ces histoires de réincarnation qu'il avait entendues. Il avait tenté d'écarter cette idée, de se comporter comme ce petit dur de Brooklyn qui avait grandi dans l'ombre d'Henry Dean, mais il n'y parvint pas complètement. Cette idée de réincarnation aurait été moins dérangeante si elle lui était venue directement, mais ce n'était pas le cas. Ce qu'il se disait, c'est qu'il ne pouvait pas faire partie de la lignée de Roland, que c'était tout bonnement impossible. Sauf si Arthur l'aîné avait fait un petit tour par Cohab City, bien sûr, pour se taper un hot-dog et un beignet de chez Dali Lundgren. C'était grotesque de sa part de tirer de telles conclusions du simple fait de savoir monter un cheval doux comme un agneau sans avoir besoin d'un moniteur. Pourtant, l'idée lui revint plusieurs fois au cours de la journée, par surprise, et elle le suivit même dans son sommeil. L'Elde, la lignée de l'Elde. 3. Ils déjeunèrent sans démonter, et tout en mangeant des popkins et en buvant du café froid, Jake rapprocha sa monture de celle de Roland. Depuis la poche kangourou du poncho, Otte lança au pistolero un regard brillant. Jake donnait au bafouilleux de petits morceaux de son popkin, et Otte avait des miettes dans les moustaches.
« Roland, puis-je te parler en tant que notre Dean ?» demanda Jake d'un air légèrement embarrassé.
« Bien sûr, » répondit Roland. Il prit une gorgée de café et leva un visage intéressé vers le garçon sans interrompre le mouvement de balancier sur sa selle.
Ben, enfin, les deux Slightman, mais surtout le gamin, m'a demandé si j'habiterais chez eux, au Rocking Bay.
Est-ce que tu le veux ? Demanda Roland.
Les joues du garçon se couvrirent d'un voile rouge.
Je me disais que si vous étiez en ville avec le vieux et que moi j'étais dans la campagne, au sud, tu intuites, eh ben, ça nous ferait deux angles différents sur la situation. Mon père dit qu'on n'a pas la même vision claire des choses si on s'en tient à un seul point de vue.
C'est assez vrai, dit Roland, en espérant que ni sa voix ni l'expression de son visage ne trahissaient le chagrin et le regret qu'il ressentit soudain. Il se trouvait en face d'un jeune garçon qui avait honte d'être un jeune garçon. Il s'était fait un ami, et cet ami l'avait invité chez lui, comme le font parfois les amis. Benny avait sans doute promis à Jake qu'il pourrait l'aider à nourrir le bétail, et peut-être tirer avec son arc, ou son bât, s'il tirait des bolts au lieu de flèches. Benny aurait envie de lui faire partager des endroits secrets, où il était peut-être allé avec sa jumelle en d'autres temps. Une cabane dans un arbre, ou peut-être un étang entre les joncs qui lui serait cher, ou bien un banc de rive où l'on raconterait que des pirates d'Elde auraient enterré de l'or et des bijoux, tous ces endroits où vont les garçons. Mais une bonne partie de Jake Chambers avait désormais honte d'avoir envie d'y aller. C'était la partie qu'avait pillée le gardien de la porte de Dutch Hill, Gasher, l'homme tic-tac, et Roland lui-même, évidemment. S'il décidait de répondre par la négative à la requête de Jake, il était fort probable que le garçon ne le demanderait plus jamais. Et il ne voudrait même pas à Roland, ce qui était pour lui encore pire. S'il disait oui de façon inadéquate, avec par exemple une toute petite pointe de complaisance dans la voix, le garçon changerait d'avis. Le garçon. Le pistolero mesura soudain combien il désirait pouvoir encore appeler Jake de cette manière, et combien le temps lui était vraisemblablement compté. Il avait un mauvais pressentiment concernant Calabrian Sturgis.
Vas-y, grand bien t'en fasse, comme on dit par ici.
T'es sûr ? Parce que si tu penses avoir besoin de moi, c'est un bon dicton que celui de ton père. Mon vieux professeur.
Cort ou Vanney ?
Cort. Il disait souvent qu'un borgne ne voit pas en relief. Il faut deux yeux légèrement séparés l'un de l'autre pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Si fait, donc, va avec eux. Deviens ami avec ce garçon, si c'était naturel. Il a l'air d'accord.
Jake répondit par un « ouais, bref ». Mais la couleur gagna de nouveau ses joues, ce qui ravit Roland.
Passe la journée de demain avec lui et ses amis s'il a une bande avec laquelle il sort.
Jake secoua la tête.
C'est très retiré dans les terres. Ben Dick Eisenhart a plein de main d'œuvre, qu'il y a des gosses de son âge, mais qu'il n'a pas le droit d'aller jouer avec eux, Parce qu'il est le fils du contremaître, j'imagine.
Roland acquiesça. Voilà qu'il ne surprenait pas.
Ce soir, on t'offrira du graff au pavillon. Dois-je te rappeler que, passé le premier toast, c'est thé glacé à chaque tournée.
Jake secoua la tête. Roland se toucha la tempe, les lèvres, le coin de l'œil, puis de nouveau la bouche.
Tête claire, bouche cousue, en voir beaucoup, en dire peu.
Jake eut un sourire fugace et dressa le pouce en signe d'assentiment.
Et toi ?
Nous dormirons tous les trois chez le prêtre cette nuit. J'espère que demain il sera en mesure de nous raconter son histoire.
Et de vous montrer...
Il était un peu en retrait des autres, mais Jake n'en baissa pas moins la voix.
Et de vous montrer ce dont il nous a parlé ?
Ça, je ne sais pas, répondit Roland.
Après-demain, nous irons tous les trois à cheval jusqu'au Rocking Bee. Nous déjeunerons peut-être avec Cy Eisenhart et nous palabrerons un peu. Puis, dans les jours qui suivront, nous ferons le tour de la ville et des environs, aussi à quatre. Si tout se passe bien pour toi au ranch, Jake, j'aimerais que tu y restes aussi longtemps que tu le voudras et qu'on te le proposera, bien sûr.
C'est vrai ?
Il eut beau sauver la face, comme disait l'expression, le pistolero constata que Jake était très heureux.
Si fait. D'après ce que j'ai compris, ce que j'intuite, il y a trois gros poissons
à Calabrian Sturges. Oberholzer, Took, l'épicier, et le troisième, Eisenhart. Je serais très curieux d'entendre ce que tu auras pu découvrir à son sujet.
Tu sauras tout, fit Jake. Et grand merci,
Sai.
Il se toucha la gorge trois fois. Puis son sérieux s'effaça, remplacé par un grand sourire, le sourire d'un jeune garçon. Il lança son cheval au petit trot pour aller annoncer à son nouvel ami qu'il avait l'autorisation de venir coucher et jouer chez lui.
4.
Nom d'un chien,
fit Eddie. Les mots sortirent lentement, à voix basse, comme l'exclamation d'un personnage de dessin animé frappé par la foudre.
Mais au bout de presque deux mois passés dans les bois, le spectacle valait bien une exclamation. Et puis, l'effet de surprise avait joué. Ils étaient tranquillement en train de trotter le long du sentier forestier, par deux. Seul Oberholzer et Roland faisaient cavalier seul, le premier en tête du convoi, le second fermant la marche. Une seconde plus tard, les arbres avaient disparu et la terre elle-même semblait plonger au nord, au sud et à l'est. Ils se retrouvèrent donc soudain face à une vue à couper le souffle, une vue époustouflante de la ville dont ils étaient censés sauver les enfants. Pourtant, au début, Eddie ne concentra pas du tout son regard sur ce qui s'étendait directement à ses pieds. Et lorsqu'il jeta un œil vers Susanna et Jake, il constata qu'eux aussi regardaient au-delà de la cale. Eddie n'eut pas besoin de se tourner vers Roland pour savoir que son regard à lui aussi portait plus loin. Définition du vagabond, c'est un type qui regarde toujours au-delà.
Si fait, quelle vue ! Grand merci aux dieux !
Fit Oberholzer avec complaisance, puis avec un coup d'œil vers Callahan.
Et l'homme Jésus aussi, bien sûr, tous les dieux ne font qu'un dès qu'il s'agit de dire merci, c'est ce que j'ai entendu dire, ça me paraît juste.
Il aurait pu jacasser. Il le fit probablement quand on était le gros fermier du coin. Il fallait en général y aller de sa petite phrase et jusqu'au bout. Eddie n'y prêta pas attention. Il se concentrait de nouveau sur la vue. Devant eux, au-delà du village, une bande de rivière grise fuyait vers le sud. Cette branche du fleuve appelée Devaratetewai se rappela Eddie. À sa sortie de la forêt, la Devaratete courait entre des berges abruptes, mais qui s'abaissaient dès que le lit pénétrait dans les champs cultivés pour finalement disparaître entièrement. Il vit quelques rangées de palmiers verts, sans doute pas tropicaux. Derrière le village de taille moyenne, les terres à l'ouest de la rivière étaient d'un vert luxuriant, tacheté de gris. Eddie était sûr que par temps ensoleillé, ce gris deviendrait bleu vif, et lorsque le soleil était au zénith, l'éclat était trop violent pour les yeux. Il contemplait des rizières, ou peut-être qu'on les appelait des champs de paddy. Au-delà des champs, à l'est du fleuve, s'étendait le désert sur des kilomètres. Eddie aperçut des rayures métalliques parallèles zébrant le sable et opta pour des voies ferrées. Et au-delà du désert, ou bien en masquant le reste, il n'y avait que le noir, érigé dans le ciel comme un mur vaporeux, tranchant dans le vif des nuages bas.
« Là-bas, c'est Anton Foudre, Sai, » dit Zalia Jaffords.
Eddie acquiesça.
« La terre des loups et de Dieu sait quoi d'autre. »« Mon salaud !» fit Slightman le jeune.
Il essayait de prendre un ton assuré et détaché, mais Eddie entendit la peur, peut-être les larmes retenues. Pourtant, les loups ne le prendraient pas, lui. Quand on perdait son jumeau, on devenait par défaut un singleton, non? En tout cas, ça avait marché pour Elvis Presley, mais le King ne venait pas de Calabrian Sturges, bien entendu, ni même de Calalockwood au sud.
Non! Le King, c'était un gars du Mississippi, fit Eddie à voix basse.
Tian se retourna sur sa selle pour lui parler.
« Je demande pardon, Sai. »
Prenant conscience de ce qu'il avait parlé à voix haute, Eddie leva les yeux vers Tian.
« Pardon, je me parlais à moi-même. »
Andy, le robot messager, nombreuses autres fonctions, était en train de remonter le chemin vers eux et entendit la fin de leur échange.
« Celui qui se parle à lui-même est de bien triste compagnie. » C'est un vieux dicton de la Kala, Sai Eddie. Ne le prenez pas pour vous, je vous prie.
Et, comme je l'ai dit et comme je le dirai sans doute encore, la morve sur une veste en daim, ça part pas, mon ami. Un vieux dicton de Calabrian Brooklyn. Les circuits internes d'Andy se mirent à cliqueter. Ses yeux bleus lancèrent des éclairs.
Morve, mucus présent dans le nez, dérivé morveux. Se dit d'une personne qui manque d'expérience et imbue d'elle-même. D'un mammifère de la famille des cervidés, sa peau est faite d'un cuir rêche et qui oublie ça, Andy, dit Suzanne. Mon ami fait juste l'idiot, c'est un peu une habitude chez lui.
Ah oui, répondit Andy, c'est un enfant de l'hiver.
« Aimeriez-vous entendre votre horoscope, Susanna Sai ?
Vous allez faire la rencontre d'un bel homme. Vous aurez deux idées, une bonne et une mauvaise. Vous aurez un
Dégage de là, imbécile !»
lança Overholser. « File en ville, en ligne droite, sans flémarder en route. Vérifie que tout est prêt au pavillon. Personne ne veut de tes bons dieux d'horoscope. » Mille excuses, le vieux. » Callahan ne releva pas la remarque. Andy s'inclina, tapota trois fois sa gorge de métal et reprit le chemin de la ville sur un sentier raide mais plutôt large. Susanna le regarda s'éloigner avec ce qui ressemblait à du soulagement.
Vous avez été plutôt dur avec lui, non ? Demanda Eddie.
Ce n'est rien qu'une machine, fit Overholser en détachant bien les syllabes du dernier mot comme s'il s'adressait à un enfant.
« Et il lui arrive d'être crispant, » ajouta Tian. « Mais dites-moi, Saïs, que dites-vous de notre Kala ?»
Roland glissa son cheval entre ceux d'Eddie et de Callahan. « C'est très beau, » dit-il. « Quels que soient les dieux d'ici, ils ont favorisé cet endroit. Je vois du maïs, de la vie rave, des haricots et des pommes de terre. Ce sont bien des pommes de terre ?»«
Si fait, des patates, » acquiesça Slightman.
Visiblement ravi du regard de Roland. Et là-bas, il y a tout ce beau riz, ajouta Roland. Toutes les petites exploitations près du fleuve, dit Tian, là où l'eau est douce et coule lentement. Et nous savons la chance que nous avons. Quand le riz est prêt, pour la semence ou pour la récolte, toutes les femmes se réunissent, ça chante dans les champs, ça danse même. Comme à Comala, fit Roland. En tout cas, c'est ce que crut entendre Eddie. Le visage de Zalia et de Tian s'éclaira lorsqu'ils reconnurent l'allusion. Les Slightman échangèrent un regard et sourirent.
« Où avez-vous entendu la chanson du riz ? » demanda l'aîné. « Et quand ?»«
Chez moi, » répondit Roland. « Il y a bien longtemps,
comme Allah, le riz nous tombe dans les bras. »
Il tendit le bras en direction de l'ouest, à l'opposé du fleuve.
« C'est la plus grosse ferme enfouie dans le blé. C'est la vôtre, Sayoverhalsa ?»«
C'est bien la mienne. Grand merci à vous. »
« Et au-delà, au sud, d'autres fermes, puis les ranchs. Celui-là, c'est du bétail, celui-là, des moutons, encore du bétail, des moutons. »«
Comment peux-tu faire la différence de si loin ?» demanda Susanna.
« Les moutons broutent plus près du sol, Dame Sai, » expliqua Overholzer.
« Par conséquent, là où vous apercevez les taches marrons du sol, ce sont des pâturages à moutons. »
Autour, la couleur ocre, comme vous diriez sans doute, c'est du bétail.
Eddie se remémora tous les westerns qu'il avait vus au Majestic. Clint Eastwood, Paul Newman, Robert Redford, Lee Van Cleef.
Dans mon pays, à moi, on raconte des histoires de guerre ancestrale entre fermiers et ranchers, parce qu'on dit que les moutons broutent trop près du sol, qu'ils arrachent même les racines, vous intuitez, et qu'alors rien ne repousse.
« C'est de l'idiotie pure, excusez mon expression, » répliqua Overholzer.
« Les moutons broutent très près du sol, si fait.
Mais alors on envoie les vaches l'arroser. Leur fumier est plein de semences. »«
Ah !» fit Eddie. Il ne vit pas quoi ajouter. Vu sous cet angle, toute cette histoire de guerre des fermiers était d'un ridicule achevé.
« Allons-y, » reprit Overholzer. « La lumière du jour se perd, savez-vous, et un festin nous attend au pavillon. Toute la ville sera réunie pour vous rencontrer. »
« Et pour nous inspecter des pieds à la tête par la même occasion, » pensa Eddie.
« Nous vous suivons, » répondit Roland. « On peut y être avant la fin du jour, ou je me trompe ?»«
Non, » fit Overholzer.
Il donna du pied dans les flancs de son cheval et tira sur les rênes d'un geste saccadé. La simple vision de la tête du cheval propulsée vers l'avant suffit à faire grimacer Eddie. Il s'engagea sur le chemin. Les autres suivirent.
5. Eddie ne devait jamais oublier leur première rencontre avec les habitants de la cale. Le souvenir qu'elle lui laissa demeura toujours frais à son esprit. Sans doute parce que tout ce qui se produisit fut plein de surprises et que, quand tout est plein de surprises, l'expérience prend des allures de rêve. Il se rappelait le changement subtil des torches, quand la palabre eut pris fin, leur lumière étrange et variée. Il se rappelait le salut inattendu d'Otte à la foule, les visages levés vers eux et ce mélange de panique et de colère qu'il avait ressenti à l'égard de Roland. Et Susanna se hissant sur le tabouret du piano dans ce lieu qu'ils appelaient la musica.
Ah oui, ce souvenir-là, tu m'étonnes. Mais le souvenir le plus vivace encore que celui de sa bien-aimée, était celui qu'il gardait du pistolero. De Roland qui dansait. Mais avant tout cela, ils avaient dû descendre à cheval la grande rue de la Cala et son pressentiment était revenu. Cette prémonition, comme s'il entendait le galop des jours mauvais.
6. Ils atteignirent la ville même une heure avant le coucher du soleil. Les nuages se séparèrent et laissèrent filtrer les derniers rayons rouges de la lumière du jour. La rue était déserte, le sol était un tapis de crasse graisseuse. Les sabots des chevaux produisaient un bruit mat sur les ornières dures et tassées. Eddie aperçut une écurie de louage appelée le repos des voyageurs, qui semblait à mi-chemin entre la pension et l'auberge, et au bout de la route, un large immeuble à deux étages qui ne pouvait être que la salle du conseil de la cale. À droite, il distinguait la lueur des torches, et il en déduisit que des gens attendaient, mais il n'y avait personne à l'entrée nord de la ville par laquelle ils étaient arrivés. Le silence et les trottoirs de planches déserts commencèrent à donner la chair de poule à Eddie. Il se remémora le récit que Roland leur avait fait de la dernière entrée de Susan à Mégis, à l'arrière d'un chariot, debout, les mains liées devant elle et un nœud de chanvre autour du cou. Sa route à elle était déserte, elle aussi. Au début. Puis, non loin de l'intersection entre la grande route et l'ancienne voie du Silk Ranch, Susan et ses ravisseurs avaient croisé un fermier seul. Un homme avec ce que Roland appelait un regard de tueur d'agneau. Plus tard, on l'avait bombardé de légumes et de bâtons et même de pierres, mais ce fermier-là était arrivé le premier, planté là avec sa poignée de spathe de maïs, qu'il lui avait lancé presque gentiment au passage, vers, eh bien, le chariouterie, la fête de la moisson des grands anciens. Tandis qu'ils avançaient dans Calabrin Sturges, Eddie s'attendait à apercevoir cet homme-là, son regard de tueur d'agneau et cette poignée de spathe de maïs. Car cette ville lui paraissait mauvaise. Pas malfaisante au sens où Mégis l'avait été la nuit de la mort de Suzanne, mais mauvaise, beaucoup plus sommairement. Mauvaise comme une mauvaise étoile, mauvais choix, mauvais augure. Mauvais cas, peut-être. Il se pencha vers Slightman l'aîné. Mais où diable est passé tout le monde, Ben ?
Là-bas, répondit Slightman en pointant le doigt vers la lueur des flambeaux.
Et pourquoi tout est aussi silencieux ?
Ils ne savent pas à quoi s'attendre, dit Callahan. Nous sommes coupés de tout ici. Les rares étrangers que nous apercevons de temps à autre sont toujours des colporteurs, des écumeurs, des joueurs et, oh, aussi les péniches marchés, qui font parfois escale ici, en plein été.
« Qu'est-ce qu'une péniche marché ?» demanda Suzanne.
Callahan lui fit la description d'une grosse barge à fond plein, à roues et à rames, peinte de couleurs vives et surchargée de petites échoppes. Elles descendaient lentement le cours de la Devon Tate Way, s'arrêtant pour proposer leurs produits aux calasses du mi-croissant jusqu'à épuisement de leur stock. De la camelote pour la majeure partie, précisa Callahan. Mais Eddie n'était pas certain de pouvoir lui faire totalement confiance, du moins au sujet des péniches marchés. Il en parlait avec cette sorte de dégoût presque inconscient des religieux de longue date. Quant aux autres étrangers, « ce sont ceux qui viennent leur enlever leurs enfants, » conclut-il. Il tendit le bras vers la gauche, où un long bâtiment bas, en bois, semblait occuper la moitié de la rue. Eddie dénombra non pas deux rambardes de quatre attaches, mais huit. Des longues, avec ça. « L'épicerie générale de tout, que grand bien vous en fasse, » dit Callahan, avec dans la voix quelque chose qui ressemblait bien à du sarcasme. Ils arrivèrent au pavillon. En récapitulant plus tard, Eddie évalua à 700 ou 800 le nombre d'habitants présents, mais quand il les vit pour la première fois, masse de chapeaux, de bonnets, de bottes et de mains durcies par le labeur, sous la lumière rouge et étirée de cette fin de journée, la foule lui parut gigantesque, indénombrable. « C'est de la merde qu'ils vont nous balancer à la tête, » pensa Eddie. Ils vont nous balancer de la merde en hurlant « Chariotrie !» Cette idée ridicule avait pourtant une certaine force. Les habitants de la cala se scindèrent en deux, dégageant au centre une allée herbeuse qui menait à une estrade de bois. Le pavillon était entouré d'un ruban de flambeaux emprisonnés dans des cages métalliques. Ils brillaient encore tous d'un éclat jaune et ordinaire. Un fort relent d'huile parvint aux narines d'Eddie. Overholzer descendit de cheval. Les autres l'imitèrent. Eddie, Susanna et Jake se tournèrent vers Roland. Lui resta assis quelques instants, légèrement penché vers l'avant, un bras appuyé sur le pommeau de sa selle, comme perdu dans ses pensées. Puis, il se découvrit et tendit son chapeau vers la foule. Il se frappa trois fois la gorge. Un murmure parcourut l'assemblée. Assentiment ou surprise, Eddie ne sut le dire. Pas de colère, cependant, il en était certain, mais c'était une bonne chose. Le pistolero passa un de ses pieds bottés par-dessus la selle et sauta prestement de son cheval. C'est avec plus de circonspection qu'Eddie, conscient de tous ses regards tournés vers lui, se sépara de sa propre monture. Il avait enfilé le harnais de Susanna un peu plus tôt, et se tenait à présent près de son cheval à elle, lui tournant le dos. Elle se glissa dans le harnais avec l'aisance d'une longue expérience. De la foule s'éleva de nouveau un murmure lorsqu'ils virent qu'elle avait les jambes coupées juste au-dessus du genou. Oberholzer s'engagea dans l'allée d'un pas assuré, distribuant quelques poignées de main en chemin. Callahan le suivait de près, exécutant parfois un signe de croix dans l'air. Des mains surgirent de la foule pour s'occuper des chevaux. Roland, Eddie et Jake s'avancèrent tous trois de front. Otte était toujours blotti dans la poche centrale du poncho que Benny avait prêté à Jake, et il observait la scène avec intérêt. Eddie se rendit compte qu'il sentait réellement la foule. La sueur, les cheveux, les peaux brunies par le soleil, et parfois une effluve de ce que les personnages des westerns appelaient, avec un mépris similaire à celui de Callahan quand il évoquait les péniches marchées, de la cocotte. Il sentait aussi les odeurs de nourriture, de porc et de bœuf, de pain frais, d'oignons frits, de café et de graffes. Son estomac se mit à gargouiller, pourtant il n'avait pas faim. Non, ce n'était pas vraiment de la faim. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'idée que ce chemin sur lequel ils avançaient allait disparaître et toute cette foule se refermer sur eux. Ils étaient tellement silencieux. Quelque part, tout près, il entendait les premiers engoulevents pousser leur dernier cri avant la nuit. Oberholzer et Callahan montèrent sur l'estrade. Eddie s'inquiéta de voir qu'aucun de ceux du groupe qu'ils avaient suivi n'en faisait autant. Roland, néanmoins, monta les trois larges marches de planches sans l'ombre d'une hésitation. Eddie le suivit, sentant ses genoux trembler un peu sous lui.
« Ça va ?»
lui murmura Susanna à l'oreille. « Jusqu'ici, oui. » À gauche de l'estrade, on avait installé une scène ronde sur laquelle se tenaient sept hommes, vêtus d'une chemise blanche, d'un jean bleu et d'une large ceinture à nœuds. Eddie reconnut les instruments qu'il tenait, et même si la vue du banjo et de la mandoline avait de quoi lui faire craindre un accompagnement musical au rabais, elle n'en restait pas moins rassurante. On n'engageait pas de groupe pour les sacrifices humains, en dernière nouvelle. Peut-être un tambour ou un gong, histoire de motiver les spectateurs. Eddie se retourna pour faire face à la foule, Susanna dans son dos. Il fut consterné de constater que l'allée qui remontait tout à l'heure du bout de la grande rue s'était effectivement refermée. Des visages se levèrent vers lui, des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux. Des visages sans expression, aucun enfant. C'étaient des visages qui passaient le plus clair de leur temps au soleil, comme le prouvaient les crevasses, et ce fichu pressentiment qui ne voulait pas le quitter. Oberholzer s'immobilisa près d'une table de bois brut. Dessus était posée une grosse plume gonflée. Le fermier s'en empara et la brandit au-dessus de lui. La foule, déjà discrète depuis le début, tomba dans un silence dérangeant, si absolu qu'Eddie entendit les râles qui montaient d'un poumon malade à chaque respiration. « Pose-moi, Eddie, » dit doucement Susanna. Cela ne le réjouit pas, mais il s'exécuta.
« Je suis Wayne Oberholzer, de la ferme des Sept Lieux. » dit-il en s'avançant tout au bord de l'estrade et en tendant la plume devant lui. « Écoutez-moi, je vous prie !»«
Grand merci, Sai !» murmura l'assemblée. Oberholzer se retourna et tendit la main vers Roland et son quatre-têtes debout dans leurs vêtements souillés par le voyage. Susanna n'était pas exactement debout, mais au sol entre Eddie et Jake, tout près d'eux. Eddie ne s'était jamais senti observé de si près.
Nous autres, hommes de la Cala, avons entendu Tian Jaffords, George Telford, Diago Adams et tous ceux qui désiraient parler dans cette salle du conseil, poursuivit Oberholzer. Puis j'ai parlé moi-même. Ils vont venir et enlever les enfants, j'ai dit, en parlant des loups, bien entendu. Et puis, ils nous laisseront en paix pour une génération, ou à peu près.
Il en est ainsi, et il en a toujours été ainsi. Je dis qu'il faut laisser faire. Je pense aujourd'hui que ses paroles étaient peut-être un peu hâtives.
Nouveau murmure dans la foule, léger comme une brise.
Lors de cette même réunion, nous avons entendu le père Callahan annoncer qu'il y avait des pistoleros plus au nord.
Le murmure se fit un peu plus fort.
Pistoleros, entre deux mondes, Gilead.
Nous sommes convenus entre nous qu'un groupe devait aller voir. Voici les personnes que nous avons trouvées. Ils prétendent être ce que le père Callahan disait qu'ils étaient.
Oberholzer avait soudain l'air mal à l'aise, un peu comme s'il retenait un paix. Eddie avait déjà vu cette expression auparavant, surtout à la télé, quand un homme politique se retrouvait confronté à des faits qu'il ne pouvait éluder et dont il était bien forcé de rendre compte.
Ils prétendent venir d'un monde disparu, ce qui veut dire...
« Vas-y, Wayne, » pensa Eddie. « Faut que ça sorte, tu peux le faire. »
Ce qui veut dire « de la lignée d'Eld ».
« Les dieux soient loués !» hurla une femme. « Les dieux les ont envoyés pour sauver nos babés, c'est vrai !»
On entendit des « chut !» Oberholzer attendit le retour au silence, un air douloureux sur le visage, puis reprit.
« Ils peuvent en rendre compte. Ils le devront, d'ailleurs. Mais j'en ai vu assez pour croire qu'ils peuvent nous aider à faire face à notre problème. Ils ont de bonnes armes, comme vous le voyez, et ils savent s'en servir. » J'en jurerai par ma montre et mon billet, et grand merci. »
Cette fois-ci, le murmure de la foule prit de la force, et Eddie le sentit bien intentionné. Il se détendit quelque peu.
« Très bien. Qu'ils se présentent maintenant un par un, pour que vous entendiez leur voix et que vous voyiez bien leur visage. Voici leur dîne, » dit-il en levant la main vers Roland.
Le pistolero s'avança d'un pas. Le soleil rouge lui mettait la joue gauche en feu. Quant à la droite, la lueur des flambeaux la peignait en jaune. Il avança une jambe. Le bruit mat du talon usé de sa botte sur les planches résonna pourtant clairement dans le silence. Pour une raison inexplicable, il évoqua pour Eddie un point frappant sur le couvercle d'un cercueil. Il s'inclina bien bas, les paumes ouvertes tendues vers lui.
« Roland de Gilead, fils de Stephen, dit-il, de la lignée d'Eld. »
Soupir.
« Puissions-nous faire ici une heureuse rencontre ?»
Il recula et jeta un regard à Eddie. Jusque-là, il pouvait le faire.
Eddie Dean, de New York, fils de Wendell.
En tout cas, c'est ce que prétendait ma maman, pensa-t-il. Il ajouta, sans même s'en rendre compte,
de la lignée d'Eld, du Quatet de 19.
Il recula et Susanna s'avança jusqu'au bord de l'estrade, le dos droit. Balayant l'audience d'un regard serein, elle dit
« Je suis Susanna Dean, épouse d'Eddie, fille de Dan de la lignée d'Eld du Quatet de 19. Puissions-nous faire ici une heureuse rencontre et grand bien nous en fasse ?»
Elle fit la révérence, écartant ses jupons imaginaires, ce qui suscita un mélange de rire et d'applaudissements. Pendant qu'elle se présentait, Roland se baissa vers Jake pour lui chuchoter brièvement quelque chose à l'oreille. Jake hocha la tête et s'avança d'un pas, l'air confiant. Il paraissait très jeune et très beau dans cette lumière de fin du jour. Il avança un pied et s'inclina. Sous le poids doté, le poncho bâilla en avant de façon comique.
« Je m'appelle Jake Chambers, fils d'Elmer, de la lignée d'Eld. » Du quatet de 99.
99 ? Eddie lança un regard à Susanna, laquelle haussa légèrement les épaules.
C'est quoi cette merde de 99 ?
Qu'est-ce que ça pouvait bien faire après tout ? Il ne savait pas non plus ce qu'était le quatet de 19, pourtant il l'avait dit lui-même. Mais Jake n'avait pas terminé. Il extirpa Otet de la poche du poncho de Benny Slightman. La foule frissonna en le voyant apparaître. Jake adressa un regard furtif à Roland, un regard qui disait « T'es sûr ?» Et Roland acquiesça. Tout d'abord, Eddie ne pensa pas que l'ami à fourrure de Jake ferait quoi que ce soit de spécial. Les habitants de la Cala, les Falcon, étaient redevenus totalement silencieux, tellement silencieux qu'une fois encore, le chant du soir des oiseaux fut clairement audible. Puis, Otet se dressa sur ses pattes arrière, en avança une devant lui et salua bien bas. Il vacilla, mais ne perdit pas l'équilibre. Ses petites pattes noires étaient tendues, coussinées vers le haut, reproduisant le geste de Roland. On entendit des exclamations de surprise, des rires, des applaudissements. Jake paraissait totalement abasourdi.
« Otet !» fit le bafouilleux. « Eld, grand merci !»
Chaque mot était bien articulé. Il garda la pause quelques secondes de plus, puis retomba à quatre pattes et fila se réfugier aux pieds de Jake. Un tonnerre d'applaudissements éclata. En un seul coup d'éclat, simple et brillant, Roland, car qui d'autre que lui aurait pu enseigner ce tour au bafouilleux, pensa Eddie, avait fait de ces gens des amis et des admirateurs. Pour ce soir, en tout cas. Ce fut là la première surprise. Otet, saluant toute l'assemblée des Falcons de la Cala et se déclarant lui-même en-tête de ses compagnons de voyage. La deuxième ne fut pas longue à se manifester.
« Je ne suis pas un orateur, » dit Roland, reculant de nouveau. « Ma langue est plus malhabile que celle d'un ivrogne un soir de la fête de la moisson. Mais Eddie nous dira bien quelques mots, j'en suis certain. »
Ce fut au tour d'Eddie de se retrouver abasourdi. Sous eux, la foule applaudissait et tapait des pieds pour montrer son enthousiasme. On entendait crier des « Grand merci, Sai !» et des « Parlez donc !» ou encore des « Écoutez-le, écoutez-le !» Même l'orchestre s'en mêla en tenant un petit air inégal mais enlevé. Il eut juste le temps de lancer à Roland un regard furieux et frénétique.
« Qu'est-ce que c'est que cette putain d'embrouille ?»
Le pistolero lui rendit un regard vide, puis croisa les bras sur sa poitrine. Les applaudissements se turent progressivement. Tout comme sa colère, elle céda la place à la terreur. Overholser le considérait avec intérêt, les bras croisés, lui aussi, en une imitation plus ou moins consciente de Roland. En dessous de lui, Eddie apercevait quelques visages sur fond de foule anonyme. Les Slightman, les Jaffords aussi. Il regarda dans une autre direction et vit Callahan, ses yeux bleus rétrécis, et au-dessus, la cicatrice cruciforme sur son front qui semblait scintiller. Qu'est-ce que je suis censé leur raconter? Vaudrait mieux dire quelque chose, Eds, lui murmura la voix d'Henry. Ils attendent.
Mille pardons, je suis un peu lent à démarrer, dit-il. Nous avons parcouru des kilomètres et des roues, et encore des kilomètres et des roues, et vous êtes les premiers êtres humains que nous ayons vus depuis main quoi? Main de semaine? Main mois? Des années? Des décennies, peut-être?
Eddie éclata de rire. Il se fit l'impression du plus grand imbécile de la Terre, du pauvre type sur qui on ne pouvait pas compter pour se la tenir tout seul quand il allait pisser, sans parler de tenir une arme.
Depuis maintes lunes bleues.
Ils explosèrent littéralement de rire. Certains allèrent jusqu'à applaudir. Sans même s'en rendre compte, il avait chatouillé l'humeur de ces gens. Il se détendit et se surprit à parler de façon très naturelle. Il se rappela au passage qu'il n'y avait pas si longtemps le pistolero en armes qui se tenait en face de ces 700 personnes remplies de crainte et d'espoir glandait devant sa télé dans un caleçon jaunissant à manger des chips, à se shooter à l'héroïne et à regarder des séries télé stupides.
Nous venons de très loin, et il nous reste bien du chemin à faire. Notre séjour ici sera de courte durée, mais nous ferons tout notre possible. Écoutez-moi, je vous prie. « Continue, l'étranger !» lança quelqu'un. « Tu parles juste !»«
Ah ouais, » pensa Eddie. « Première nouvelle, mon vieux. »« Quelques
six faits et
grand bien !» fusèrent.
Dans la baronnie d'où je viens, les guérisseurs ont un adage, leur dit Eddie. Il dit « Commencez par ne pas faire de mal !»
Il ne se rappelait pas qu'il s'agissait d'une devise d'avocat ou de médecin, mais il l'avait entendue dans pas mal de films et d'émissions de télé, et elle sonnait plutôt bien.
« Nous ne voulons faire aucun mal ici, vous intuitez ? Mais il est impossible de retirer une balle ou même une écharde dans le doigt d'un enfant sans verser un peu de sang. »
L'assemblée murmura son assentiment. Néanmoins, Overholser gardait un air impassible, et Eddie aperçut dans la foule quelques signes de doute. Il en ressentit une étrange poussée de colère. Il n'avait aucun droit d'éprouver de la colère à l'égard de ces gens qui ne leur avaient fait strictement aucun mal et ne leur avaient absolument rien refusé, du moins jusqu'à présent. Mais il en éprouvait quand même.
« Nous avons un autre dicton dans la baronnie de New York, » reprit-il. « Pas de repas gratuit pour les braves. D'après ce que nous avons entendu, la situation est grave. » Tenir tête à ces loups sera dangereux, mais parfois ne rien faire rend les gens malades et affamés. « Écoutez-le, écoutez-le !» cria toujours la même personne au fond.
Eddie aperçut Andy le robot, et près de lui un grand chariot dans lequel se tenaient des hommes drapés dans de volumineuses capes noires et bleu foncé. Eddie supposa qu'il s'agissait des manis.
Nous allons jeter un œil aux alentours, et une fois que nous aurons cerné le problème, nous verrons ce que nous pouvons faire. Si pour nous la réponse est rien, nous vous tirerons la révérence et poursuivrons notre route.
Au deuxième ou troisième rang se tenait un homme avec un vieux chapeau blanc de cow-boy, et des sourcils broussailleux, et une moustache assortie. Eddie se fit la remarque qu'il ressemblait pas mal au Pat Cartwright de ce vieux feuilleton télé Bonanza. Mais le sosie du patriarche n'avait pas franchement l'air enchanté par ce que disait Eddie.
« Mais si nous pouvons vous aider, nous le ferons, » dit-il d'une voix soudain monocorde. « Nous ne le ferons pas tout seuls, les amis. Écoutez-moi, je vous prie, écoutez-moi bien. » Vous feriez mieux de vous préparer à vous battre pour ce que vous voulez, à vous battre pour ce que vous voulez garder. »
À ces mots, il tendit un pied devant lui. Son mocassin ne produisit pas le même son sourd de coup de poing sur un cercueil, mais Eddie l'avait quand même en tête. Et s'inclina. S'en suivit un silence de mort. Puis Tian Jafort se mit à applaudir. Zalia se joignit à lui, suivi de Benny. Son père lui donna un petit coup de coude, mais le garçon ne s'interrompit pas, et bientôt Slideman l'aîné fit de même. Eddie lança à Roland un regard incendiaire, ce qui ne modifia en rien l'expression impassible de ce dernier. Susanna lui tira le bas du pantalon, et Eddie se pencha vers elle.
« Tu t'en es bien tiré, trésor ?»«
Pas grâce à lui, en tout cas. » fit-il avec un signe de tête en direction du pistolero. Mais à présent qu'il en avait terminé, il se sentait étonnamment bien. Et les grands discours n'étaient vraiment pas le point fort de Rallant, Eddie le savait bien. Il pouvait s'en charger s'il n'avait pas de renfort, mais il n'y tenait pas. « Maintenant, tu sais quel est ton rôle, » pensa-t-il. « Porte-parole de Rallant de Gilead. » Mais après tout, était-ce si terrible? Cuthbert Allgood n'avait-il pas assumé cette tâche bien longtemps avant lui? Callahan avança d'un pas.
Peut-être pourrions-nous les accueillir un peu mieux que nous ne l'avons fait, mes amis, leur souhaiter la bienvenue comme on sait le faire à Calabrian Sturges.
Et il se mit à applaudir. Cette fois-ci, les Falcon Assemblées l'imitèrent immédiatement. Les applaudissements furent longs et vigoureux. Il y eut des hurrahs, des sifflets, des pieds martelant le sol, ce qui fut moins spectaculaire sans un plancher pour la résonance. La petite formation musicale ne se contenta pas de jouer un seul morceau, mais toute une série. Susanna attrapa Eddie par la main. Jake lui prit l'autre. Ils saluèrent tous les quatre comme un groupe de rock à la fin d'un concert particulièrement réussi, et le public redoubla d'applaudissements. Callahan finit par les faire taire en levant les mains.
« Un gros travail nous attend, mes amis. Des sujets graves auxquels nous devons réfléchir, des choses graves à faire. Mais pour l'heure, mangeons et qu'ensuite on danse, on chante et on fasse la fête. »
Les applaudissements fusèrent de nouveau, que Callahan apaisa.
« Assez !» cria-t-il en riant. « Et vous autres, Manny, au fond, je sais que vous avez apporté vos propres rations, mais je ne vois vraiment pas pourquoi vous ne vous joindriez pas à nous pour les manger. Joignez-vous à nous, grand bien vous en fasse !»«
Grand bien nous en fasse à tous, » pensa Eddie. Et pourtant, ce pressentiment ne le quittait pas. C'était comme un invité qui se tient à l'écart de la fête, juste sous la lueur des flambeaux. C'était comme un son, aussi. Un talon de botte sur le plancher, un coup de poing sur le couvercle d'un cercueil.